Bien le bonjour, bienvenue sur Radio B, en direct de Bourg-en-Bresse.
Nous sommes Félix, Steve, Walid. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'égalité.
On se rend compte que le sujet de l'égalité nous conduit vers celui des inégalités.
En théorie, notre système vise l'égalité. En pratique, on se rend compte que ce n'est pas le cas.
En France aujourd'hui, il y a 9,8 millions de pauvres. Le PDG de Sanofi touche 343 fois le salaire d'une aide-soignante.
Le taux de pauvreté a encore augmenté entre 2017 et 2018. Il est passé à 14,7% de la population.
Steve, t'as déjà entendu parler du concept de l'égalité des chances ?
Non, du tout. Ça consiste en quoi ?
L'égalité des chances, ça veut dire que chaque individu, par le biais du système éducatif, pourrait disposer des mêmes armes pour atteindre le poste qui lui plaît dans la société.
Ah bon ? Et comment ça marche ?
Selon David Guilbeault, l'auteur du livre « L'illusion méritocratique », en l'état actuel, ça ne fonctionne pas totalement. Pour que ça marche, il ne faudrait pas considérer que l'école et les mérites scolaires, mais aussi favoriser les compétences humaines variées comme l'altruisme, l'engagement par exemple. Il faudrait aussi, comme le modèle allemand ou danois, développer des formations continues où les jeunes auraient le temps et le choix de décider de leur orientation. Par exemple, après le bac, je ne savais pas ce que je devais faire. Et une formation m'aurait permis d'avoir une idée plus précise.
Moi, j'ai été orienté dès le collège vers la maçonnerie, alors que je ne m'étais pas posé la question de savoir ce que je voulais faire.
Voilà, l'idée de faire plus de formations, ça pourrait aider justement à se faire un avis sur le métier. Et pour les questions de compétences, il faudrait aussi mettre l'accent sur les qualités personnelles, autres que les savoirs. Par exemple, savoir s'exprimer à l'oral, c'est une compétence. Faire preuve de minutie pour manier des outils, c'est aussi une compétence. Varier les palettes de compétences permettrait de réduire la compétition et les inégalités.
Mais pourquoi ?
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce sont les savoirs scolaires qui sont valorisés. Et ces savoirs ne sont pas innés. Ils font partie d'un apprentissage. Pour les enfants d'un milieu plus aisé, ils peuvent bénéficier de cours particuliers, d'activités qui favoriseront à la réussite scolaire, comme les cours de musique ou le théâtre.
Mais que pense cet auteur de l'ouverture des grandes écoles comme l'ENA ou Sciences Politiques à des élèves issus de milieux défavorisés ?
Pour lui, ce n'est pas la solution, parce qu'elle ne résout pas le problème en profondeur. En fait, il y a aussi un souci d'égalité des places. En gros, il y a peu de places pour tous sur les hauts postes. Donc forcément, ils y sont attribués aux meilleurs, et donc à l'élite. Si on mettait à plat cette répartition, il y aurait moins d'écart entre les différents postes dans la société.
Et donc, Félix, quelle serait la solution ?
Alors, la solution, je ne la connais pas, Steve, mais selon David Guilbeault, il faut à la fois donner une chance aux individus, en réduisant l'emprise de l'école sur son destin, mais aussi sauver la société, en agissant pour une grande égalité des places. Pour faire le point sur ces notions, de manière encore plus concrète, nous avons envoyé un questionnaire au sociologue et universitaire Daniel Tain.
Daniel Tain, on réfléchit à la notion d'égalité dans cette émission. On est vite arrivé à l'expression « l'égalité des chances ». Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette expression ?
Alors, c'est une expression qui m'embarrasse, parce que je pense qu'elle suscite beaucoup d'intérêt ou d'espoir en disant on va donner les mêmes chances à tout le monde. Et en fait, c'est une expression piège parce qu'elle peut en fait vouloir dire qu'on finalement donne les mêmes conditions d'enseignement à tout le monde. Donc, ça serait l'égalité. Voilà, on met dans les mêmes classes, les mêmes choses, vous avez donc les mêmes chances. Sauf que à ce moment-là, elle fait l'impasse sur le fait que dès le départ, les enfants ont des différences sociales. Et il y a toutes les chances qu'à ce moment-là, elle favorise ceux qui sont déjà armés pour l'école. Ça renvoie à une expression de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, donc un grand sociologue, qui date, mais il disait « l'école est indifférente aux différences ». Et c'est parce qu'elle est indifférente aux différences que finalement, elle n'est pas égalitaire. Donc voilà, le piège, il est là sur la question d'égalité des chances. Et moi, je préfère je préférerais des politiques qui tâchent de réduire les inégalités sociales face à l'école.
Pourtant, l'école nous paraît être un levier important pour favoriser l'égalité. Qu'en pensez-vous ?
Ce ne sont que des questions embarrassantes, parce qu'en fait, l'école, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est un petit peu un levier pour favoriser sinon l'égalité, en tout cas la possibilité que les enfants de familles plus démunies puissent accéder à d'autres situations, donc c'est vrai. Et en même temps, bien la sociologie a montré ça depuis longtemps, c'est un outil de reproduction sociale. C'est-à-dire qu'à travers l'école, et c'est pas la faute des enseignants ni rien, c'est la manière dont ça fonctionne, à travers l'école, il y a une reproduction sociale. Les enfants les moins, des classes les moins favorisées, eh bien, souvent, pas toujours, mais souvent finissent par ne pas aller très loin à l'école ou échouer, comme on dit. Et les enfants les plus favorisés, les statistiques le montrent, ont un taux de réussite extrêmement important. Donc c'est à la fois un levier presque incontournable pour les familles populaires pour tenter de s'en sortir, comme on dit, comme les parents que j'ai interviewés disent d'ailleurs, pour que leurs enfants s'en sortent. Mais à la fois, c'est une l'école en France, surtout en France, mais pas seulement, elle fonctionne plutôt à la reproduction des inégalités.
Quels sont les facteurs qui défavorisent les milieux populaires face à l'école ?
Alors, on peut, là aussi c'est une question vaste, mais on peut regarder des deux côtés. On peut regarder du côté des familles, en quelque sorte, ou des milieux sociaux, ce qui est plus souvent regardé en oubliant l'autre côté, c'est-à-dire l'école. Mais c'est clair que les conditions matérielles, sociales d'existence, par exemple, déjà, rien que ça, on n'en parle pas assez, ont un effet extrêmement important. Là, je viens de faire une petite étude sur un quartier populaire pendant le confinement, et ben, ça commence tout simplement par le fait qu'on n'a pas d'outils Internet ou juste un téléphone, etc. Voilà, ou qu'on ait 6 enfants et une maman... prendre un exemple que j'ai vu dans un logement qui fait 40 mètres carrés. Donc effectivement, toutes ces conditions matérielles d'existence ont des effets, sans compter la précarité d'existence. Alors, je parle surtout des familles populaires les plus précaires, les plus démunies, parce qu'il y en a d'autres qui s'en sentent un peu mieux, mais sans compter la précarité de la vie des parents, qui a pour effet qu'ils ont un mal fou à se projeter sur le lendemain, sur le lendemain, et donc vivent un peu au jour la journée, comme on disait au 19e siècle. Et du coup, c'est pas si facile que ça de s'investir à ce moment-là dans des projets scolaires ou des perspectives scolaires. Si je reste du côté des familles, pour pas être trop long, il y a ce qu'on appelle traditionnellement le faible capital scolaire ou capital culturel des familles, des parents. Alors, bien s'entendre là-dessus. Capital scolaire, oui, ça veut dire que souvent les parents ne sont pas allés très loin à l'école et qu'ils maîtrisent, ou pas du tout d'ailleurs, pour les certaines familles immigrantes, et qu'ils maîtrisent mal l'école, etc. Capital culturel, ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas de culture, parce que du point de vue sociologique, anthropologique, tout groupe social a des cultures, une culture en quelque sorte, et ça veut dire qu'ils sont éloignés de la culture dominante, de la culture que transmet l'école, de la culture de la littérature, de la culture, etc. Et que du coup, ils ne peuvent pas le transmettre facilement à leurs enfants. Alors, si je regarde du côté de l'école, parce qu'il ne faut pas oublier, l'école... Même s'il y a plein d'efforts faits de la part d'enseignants, l'école, il y a plein d'efforts fournis. Mais l'école, dans son fonctionnement général, je vais employer une formule qui consiste à dire, elle n'est pas de moi, mais je la reprends, qu'elle exige de tous ce qu'elle ne leur donne pas. C'est-à-dire qu'au fond, elle attend les enfants, ils devraient venir avec des prérequis, c'est-à-dire des savoirs, des manières de penser, des manières de parler, etc., qui sont favorables à la réussite scolaire. Mais tous les enfants n'ont pas ces moyens-là. Bon, pour prendre un exemple classique, les enfants d'enseignants, ma dernière fille, par exemple, évidemment, elle baigne dans un milieu d'enseignants, ce qui donne accès à des livres, qui donne accès à des savoirs, à un certain nombre de choses que l'école attend. Donc l'école, ses manières de fonctionner, c'est d'exiger de tous des choses qu'elle devrait leur donner, et que souvent elle ne leur donne pas.
Comment vous expliquez que parfois... un élève sort du lot et atteint ces grandes écoles, Sciences Po, l'ENA, médecine. Qu'est-ce qui le différencie des autres ?
Alors, il y a une explication qui est souvent donnée et que sans doute le ministre de l'Éducation donnerait peut-être, qui est ces structures cognitives, intellectuelles, etc. Bon, pour être plus sérieuse, ce qui ne veut pas dire que tout ceci n'a pas de sens, mais... du point de vue d'un sociologue, en fait, ces cas atypiques, qui sont plutôt rares statistiquement, ces cas atypiques, on peut trouver des explications en analysant les parcours des élèves comme leur vie familiale. Alors, je ne peux pas donner une réponse pour tous, mais on a des enfants, par exemple des familles qui sont plus stables que d'autres, ou dans lesquelles les parents, finalement, en exagérant un peu, mais à peine, sacrifient tout pour l'école. Coupent les enfants parfois du quartier en disant « je veux pas qu'ils jouent ». J'avais une maman il y a longtemps que j'avais interviewé, elle disait « je veux pas qu'ils jouent avec les baskets ». Non, pas les baskets, c'était les gamins qui lui paraissaient collégien qui sait craquer le collège, ce genre de choses. Et donc, elle essayait de construire une espèce de muraille, quoi, de protection. Bon, ça suffit pas. Mais il peut y avoir ça. Il peut y avoir, ça peut se conjuguer avec parfois quelqu'un de la famille qui est déjà un peu mieux réussi que d'autres membres et qui va donner un coup de main ou prendre en charge cet enfant-là. Si vous voulez, et puis il y a des rencontres avec des enseignants, des travailleurs sociaux. Il n'y a pas une explication simple, mais souvent, on pourrait dire, pour les familles populaires, les probabilités d'échouer sont plus grandes que les probabilités de réussir. Et le moindre accident dans la vie familiale ou scolaire peut entraîner une chute. Et donc, pour que des enfants réussissent, comme les cas de réussite un peu exceptionnels qui existent, mais je dis exceptionnels en même temps, il y en a de plus en plus, je ne sais pas, j'exagère quand même, il faut beaucoup de facteurs qui se cumulent, beaucoup de facteurs qui vont permettre ça. Et donc, c'est souvent une conjonction de ce que je vous ai dit dans les trajectoires familiaux. Ça fait aussi des rencontres avec des enseignants qui vont, consciemment ou non, prendre sous leur aile un élève qui leur semble peu plus se débrouiller, etc. Donc voilà, c'est pas si simple de répondre à cette question parce que il y a beaucoup de facteurs et en fait, ces facteurs tout seuls, en général, ne suffisent pas à expliquer la réussite particulière d'un élève. C'est la conjonction des facteurs.
On a entendu parler de la méthode Montessori. Dans certains pays, ailleurs dans le monde, on cherche aussi à modifier les pratiques à l'école. Que faudrait-il changer pour que l'égalité des chances fonctionne véritablement ?
Il y a une variété de méthodes et que dans certaines écoles de quartier populaire, on emprunte un peu à toutes ces écoles-là, toutes ces méthodes, tous ces discours, des manières de faire. Alors, c'est pas si simple de dire ce qu'il faudrait changer, mais bon, déjà, on pourrait dire, je pourrais donner quelques pistes. Je pense déjà, il y a quelque chose qui concerne, c'est en dehors de l'école, il faudrait réduire les inégalités sociales dans notre société, ça c'est clair, ça c'est très très clair. Tant qu'il y aura des inégalités sociales fortes et qui se renforcent dans notre société, l'école, elle ne pourra pas être égalitaire. Enfin, les choses sont pas séparables. Donc, aider les familles les plus démunies, augmenter les salaires, que sais-je, enfin, tout un tas de choses qu'on pourrait discuter par ailleurs. Bon. Ensuite, notre école, j'en donne quelques éléments, notre école française, elle est particulièrement marquée par des logiques de compétition et de classement dans l'école. Il n'y a plus de classement comme quand j'étais à l'école, moi, où on était premier, deuxième ou troisième. Mais en fait, ça fonctionne un peu toujours comme ça. C'est quand même l'idée, voilà, il y a les bons, il y a les moins bons. Il y a les meilleurs qui réussissent et il y a les moins bons. En plus, on oriente. Il suffit d'assister à un conseil de classe de fin de période au collège pour se rendre compte qu'il y a ceux qui passent, les bons. Il y a ceux même qu'on va pousser éventuellement pour aller vers des écoles particulières. Plus d'excellence, selon l'expression consacrée, et puis d'autres qui vont, dont on dit, il faut les orienter. En fait, les orienter, ça ne veut pas dire trouver la voie qui est la bonne pour eux. Et de fait, ça veut dire, on ne peut pas les faire continuer dans la voie principale de l'école, donc on cherche autre chose. Donc, il y a des logiques de compétition et de classement dans l'école. Parfois, on parle beaucoup des écoles du Nord dans les classements internationaux, comme la Finlande. Je ne suis pas fan spécialement de l'école finlandaise, néanmoins, parmi les réussites de cette école, c'est d'avoir réduit, presque supprimé, en tout cas pour les petites classes, cette logique de compétition et de classement. On est là pour apprendre. D'abord pour apprendre, pas pour réussir ou échouer, on est là pour apprendre. Et quand on a plus de difficultés à apprendre, on nous donne un coup de main, etc. Notre école, elle est loin de ça. Voilà. Alors il y a ça, il y a peut-être pensé à ce que j'ai dit tout à l'heure, donner aux enfants ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire donner des pédagogies un peu, enfin, je ne sais pas s'il faut les appeler explicites, parce que le ministre actuel, il parle de ça aussi, on ne met pas les mêmes choses dessous. En tout cas, donner aux enfants ce qu'ils n'ont pas par leur famille, pas faire comme si, au fond, les enfants qui arrivaient, ils étaient déjà tout prêts, bien scolarisables, etc., ce qui conduit en fait à faire une école pour les classes moyennes intellectuelles, en quelque sorte, en gros pour des enfants d'enseignants, quoi, c'est-à-dire l'élève parfait, c'est l'enfant d'enseignant. Je caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a déjà les outils. Bon. Donc, pensez à des pédagogies qui, justement, tentent de partir de ce que sont les enfants, y compris de classe populaire, et non pas pour les laisser là où ils sont, mais pour leur donner, à partir de ce qu'ils sont, des outils pour avancer. Donc, dire les choses de manière plus explicite qu'elles ne le sont. On a noté, des chercheurs en sciences d'éducation ont noté que parfois l'école, dans les écoles, on a plein d'activités, comme si toutes ces activités, le savoir allait venir de lui-même, alors qu'en fait, les enfants ne savent pas ce qu'ils apprennent au moment où ils le font. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bon, c'est pas toutes les classes, c'est pas toutes les écoles, c'est très compliqué. Il y a plein de... Je suis pas en train de dire du mal de l'école et des enseignants, loin de là, parce que je trouve qu'ils font énormément de choses, surtout dans les quartiers populaires, pour les élèves. Mais la structure de notre école est un frein, en quelque sorte. Et je pense qu'une des pistes, c'est sortir de la logique de compétition et de classement dans l'école. Et puis, ça va avec. J'ajouterais ça, ça me tient beaucoup à cœur pour des raisons de sociologue, peut-être aussi biographique. Donner le sentiment de la légitimité aux enfants. Parce qu'en fait, les enfants de milieu populaire et leurs parents, ils apprennent vite qu'ils sont incompétents, entre guillemets, qu'ils sont illégitimes, qu'ils ne sont pas dignes de l'école. Enfin, ils intériorisent ça. Et du coup, parfois, ils s'auto-censurent, ils s'auto-éliminent. Et on le voit, et je ne sais pas si les auditeurs se reconnaîtront là-dedans, mais parfois on se dit, mais non, ça c'est pas pour moi. Voilà. Ou alors on dit, l'école n'a pas voulu de moi, mais en fait, j'ai pas non plus voulu de l'école. En fait, l'école, notamment avec ses classements, en renvoyant les élèves qui ont des difficultés rapidement à des élèves en difficulté, en les renvoyant de ce côté-là, elle leur transmet un sentiment d'illégitimité, mais qui en plus vient renforcer ce sentiment d'illégitimité qui est déjà présente dans beaucoup de familles populaires. Et du coup, c'est très difficile d'avancer quand on a le sentiment que l'école, c'est pas fait pour soi. Quand on a le sentiment qu'on n'est pas digne de l'école. À mon sens, la politique scolaire ne va pas dans le sens d'une réduction des inégalités.
Comment imaginez-vous le futur de l'école ? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'appuie sur les neurosciences comme appui aux élèves. Ça pourrait être une solution ?
Oui, et en même temps, bon, là je vais faire un truc temporatiste, Et en même temps, en tapant sans cesse sur la sociologie et les sciences de l'éducation, c'est-à-dire en ramenant tout à quelque chose qui serait de l'ordre du neurocognitif. Alors, j'ai rien contre les neurosciences, sauf quand elles figent les choses, qu'elles pensent que finalement tout est inné, tout se joue dans le cerveau, mais c'est pas le cas de les neurosciences. Et le ministre, il s'appuie quand même sur les neurosciences qui sont pas les plus souples de ce côté-là. Donc moi, je pense qu'un des problèmes que l'on a, et par ailleurs, si on regarde sa politique, elle est très élitiste, on pourrait le voir avec Parcoursup, qui sélectionne les étudiants, qui en fait sélectionne sur des bases très, 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 très élitistes, hein, et dans une logique de classement et de compétition extrêmement forte. Bon. Alors, d'un autre côté, on peut me dire, oui, mais il a créé les CPA12 dans les REP, et les CE1A12, etc. Et là, on tombe sur autre chose, parce qu'effectivement, réduire les effectifs, c'est sans doute une bonne chose. Mais les réduire, juste les réduire, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une réflexion sur comment on enseigne, qu'est-ce qu'on enseigne, et sur la question des classements que j'évoquais tout à l'heure. Par ailleurs, mais ça, c'est pas lié à ce ministre, même s'il j'ai beaucoup de raisons de ne pas être d'accord avec lui, mais par ailleurs, c'est un des gros défauts de notre pays, c'est qu'on réforme sans cesse, à la hache, en balayant tout ce qu'il y avait avant. Dans les écoles d'éducation prioritaire, dans les écoles de quartier populaire, il y avait un dispositif qui s'appelait plus de maîtres que de classes. Donc, ça voulait dire que s'il y avait, je ne sais pas, 10 classes, il y avait un maître supplémentaire qui tournait entre les classes, et quand c'était bien fait, qui venait renforcer telle classe à tel moment, donner prendre des petits groupes pour les faire avancer, sans les stigmatiser parce qu'ils seraient mauvais, juste on prend un groupe, on le fait avancer, et puis ensuite il rejoint toute la classe, il n'est pas mis à part, etc. Ça, les CPA12, parce qu'on n'a pas augmenté le nombre d'enseignants derrière, ça a balayé ça, d'accord ? Voilà. Et donc souvent en France on fait des réformes comme ça sans associer les gens de terrain, les enseignants, et du coup hop, on fait du passer table rase en quelque sorte, sans en tirer le bilan, etc. Par ailleurs, les CPA12, sur lesquels je n'ai rien contre, sur le principe, j'insiste, il faut regarder en quelles conditions ils sont faits, puisque une des conséquences, c'est que parce qu'il n'y a pas assez de place physique dans les écoles, les CPA12, ça veut dire parfois des classes de 24, ou de 25, 26, avec deux enseignants. En tant que tel, pourquoi pas, il y a bonnes expériences de classes doubles, de classes doublées avec deux enseignants qui ont pu produire des choses intéressantes. La difficulté, c'est lorsque un de ces enseignants est absent, il n'y a plus de remplaçants aujourd'hui dans l'éducation nationale, ou très très peu, eh bien, en fait, l'enseignant se retrouve fréquemment avec 24 élèves au lieu des 12. Donc, si vous voulez, il peut y avoir des idées intéressantes, mais leur mise en œuvre pose vraiment problème aujourd'hui. Et en tout cas, il n'y a pas d'évaluation non plus qui démontre que les CPA12 ont changé radicalement les choses. C'est compliqué pour moi, parce que je suis très attaché à l'école, y compris parce que j'en suis un produit. Je vois bien qu'il y a d'autres gens dans mon entourage qui ont bénéficié de l'école. Donc, d'un côté, oui, l'école, elle produit des choses intéressantes. Mais, en même temps, elle est toujours dans cette reproduction. Et autant le dire, depuis une vingtaine d'années, on est plutôt dans une aggravation des inégalités face à l'école. Il y a certaines statistiques de l'INSEE qui l'ont montré. Au niveau de l'accès au bac, il y a un recul pour les classes les plus défavorisées. Quand je dis recul relatif par rapport à d'autres catégories. Voilà. Et donc, on a eu à la fois un accès qui s'est élargi progressivement, par exemple au bac, hein, même si on va discuter du type de bac qu'on obtient, ça c'est encore une autre question, mais en même temps, il y a une tension notamment pour les fractions les plus pauvres des classes populaires qui va plutôt vers une augmentation des inégalités. Et malheureusement, comme les inégalités sociales se renforcent, et il faut bien dire que la période qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre avec l'épidémie et les conséquences économiques, ne rassure pas sur l'avenir, hein. Malheureusement, ça a des effets aussi sur l'école. Donc oui, non, le constat n'est pas très, très... Mais en même temps, si je peux terminer de manière... Enfin, terminer, je ne sais pas si je peux terminer, mais de manière positive, je ne voudrais pas que ce que je dis là, ça soit entendu comme « ça y est, c'est foutu pour les milieux populaires », il nous dit qu'on est condamné à se casser la gueule à l'école, etc. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'il faut se saisir de l'école pour tâcher de s'en sortir. Hein. Et il y en a plein qui s'en sortent dans cette école, heureusement. Mais je dis qu'en même temps, on est bien obligé de constater que l'école, elle a énormément de mal, à réduire les inégalités et qu'elle a plutôt tendance à les reproduire.
Daniel Tain, je rappelle que vous êtes sociologue et universitaire à l'Université Lyon 2. Merci.
J'ai le syndrome de l'exclu, l'impression de pas être à ma place, mal jugé, mal vu depuis l'époque d'aller en classe, dégaine, de délinquante, et je pue la zone à trois bornes, l'impression d'être violée, même quand y'a des gars à bas bord, ils nous prennent pour des primates, ça met sur les nerfs, j'ai pas les mots, je m'exprime à l'écran, j'en ai plus, je m'énerve, ouais je sais, c'est nul, ça m'a causé des torts, mais j'ai pas la patience de ceux qui sont restés à l'école, l'impression de déranger par ma simple présence, quand je suis loin du quartier, de mes gens, je déstabilise, attise la vigilance à faire flipper les mamies et faire stresser les vigiles, je ressens la méfiance de l'autre comme un coup bas, paranoïde de sa paranoïe, je me sens coupable. Depuis que je suis môme, j'en ai ras le bol, je m'auto-exclus, car de l'exclu, j'ai le syndrome.
J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur, j'ai le syndrome de l'exclu. Putain, je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur, j'ai le syndrome de l'exclu. Putain, je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus.
Douleur infantile, sentiment d'exclusion. Alors je foutais bordel quand j'étais petite, aucun respect pour la complaisance, ni celle des petits, ni celle des grands. À force d'être vu comme le vilain petit canard, ça te fait pousser les dents. Sentir la crainte, c'est blessant. Et petite, ça m'a blessé. Alors tu deviens ce qu'ils dessinent dans leurs clichés. Une marginale qu'en a plus rien à pisser. Une sauvage au royaume d'une peur trop civilisée. Tu sais, le syndrome est profond quand tu rentres pas dans leur format. Et que l'injustice est comme normal. Faut oser, sinon qui est mort, man, que chacun de nous porte l'âme de qui il est, la vérité qu'on proclame. Prison des stéréotypes, je suis coupable avec ma tête de craps. Allez-vous-en avant que je pète un câble. Y'a que des figures hypocrites dans vos symboles. Laissez-moi dans mon coin, car de l'exclu, j'ai le syndrome.
J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur, j'ai le syndrome de l'exclu. Putain, je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque d'air pur, j'ai le syndrome de l'exclu. Putain, je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus.
Pourquoi je me sens coupable si un vol dans l'assemblée
syndrome de l'exclu.
Pourquoi la vendeuse me regarde et les vigiles commencent à trembler? Pourquoi ceux qui me regardent de haut ne me regardent pas dans les yeux? Pourquoi les flics me tutoient? Pourquoi les bourges sont mal à l'aise? Pourquoi je me sens jugé si je bouge de ma zone? Victime de leurs clichés dont leurs médias raffolent.
Le syndrome de l'exclu
qui m'a poussé à me battre, à être qui je suis, loin de leurs critères à deux balles, à m'en sortir par moi-même, à fuir de l'abattoir.
Exclu de leur monde,
j'accomplis ce qu'ils ne veulent pas croire.
Le syndrome de l'exclu
qui m'a poussé à me battre, à être qui je suis, loin de leurs critères à deux balles, à m'en sortir par moi-même, à fuir de l'abattoir.
Exclu de leur monde,
j'accomplis ce qu'ils ne veulent pas croire.
J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque pur, j'ai le syndrome de l'exclu. Putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine mes vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure et en manque pur, j'ai le syndrome de l'exclu. Putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine mes vertus.
Walid, une solution pour réduire les inégalités, ça pourrait être le revenu universel ou le revenu minimum unique.
Vous avez peut-être entendu ces deux notions dans des propositions politiques. Attention, il faut bien distinguer ces deux concepts, ils sont différents. Noam Léandri et Louis Morin, représentants de l'Observatoire des inégalités, portent le revenu minimum unique ou RMU. L'objectif de cette proposition, garantir un revenu décent à chacun des 5 millions de personnes pauvres en France.
Et comment ça se traduirait ?
L'idée, c'est de considérer les différents types de ménages, de remplacer l'ensemble des minima sociaux et d'élever le niveau au-dessus du seuil de pauvreté. En clair, pour une personne seule, ça serait l'équivalent de 860 euros par mois. Ce montant varierait en fonction de la composition des ménages. Un couple pourrait percevoir 1290 euros. On ajouterait 260 euros par enfant de moins de 14 ans et 430 pour les plus de 14 ans.
Et combien ça coûterait de mettre en place ce dispositif ?
Le coût a été estimé à 7 milliards d'euros par an. Pour le financer, il suffirait de réintroduire l'impôt sur la fortune et d'imposer les revenus sur le patrimoine selon un barème progressif. L'avantage du RMU par rapport au dispositif existant, c'est qu'il serait ouvert aux jeunes de moins de 25 ans. Je rappelle qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de toucher le RSA.
Ah oui, c'est pas mal. Et le revenu universel, c'est quoi ?
Le revenu universel ou de base a été défendu par divers mouvements allant de la gauche de Benoît Hamon en passant par les néolibéraux. L'idée, c'est de donner un revenu fixe variant entre 800 et 1000 euros à tous les citoyens, riches ou pauvres. Concrètement, le PDG d'une grande entreprise percevra, en plus de ses dividendes, qui, disons-le, sont déjà bien confortables, ce revenu. En parallèle, celui qui est sans emploi se contentera de cette seule et unique somme. Puisque le revenu universel a pour but de remplacer les autres minima sociaux, APL, allocations familiales, etc.
Et combien ça coûte ce projet ?
L'Observatoire des inégalités a fait le calcul. Supposons que le revenu est fixé à 900 euros par mois pour un adulte seul. Si on multiplie 900 euros sur une seule année, pour 50 millions d'adultes, on est à environ 540 milliards d'euros. Rien à voir avec le financement du RMU, qui lui s'adresse uniquement aux plus pauvres. Le revenu universel ou de base coûte cher et paraît compliqué à financer. Il peut être mis en place pour tous les adultes sans distinction. Dit comme ça, on pourrait croire qu'il est juste parce qu'égal pour tous. Mais est-il équitable pour autant ? À vous d'en juger.
Merci de nous avoir écoutés sur Radio B en direct de Bourg-en-Bresse.
On espère que cette émission vous aura permis d'en savoir plus sur les inégalités.
On espère aussi que les choses vont pouvoir changer.
Il ne tient qu'à vous de faire bouger les choses.
A bientôt sur Radio B.
Et merci à vous pour nous avoir écoutés.
What keeps the planet spinning? The force from the beginning.